بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، اللهم بصرنا بعيوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme d'habitude, nous continuons inshallah nos cours de tawhid. Donc la dernière fois, nous avons, pour ceux, je donne déjà une remarque, pour ceux qui ont des questions, on laissera en fin de séance. Vous prenez note, comme ça on marche, Inch'Allah. Avant la fin de séance, 10 minutes, un quart d'heure, je vous donne, Inch'Allah, la parole pour poser les questions que vous voulez concernant le cours. Comme ça, Inch'Allah, j'enchaînerai directement. Donc on a parlé la semaine dernière sur un sujet très important qui concerne la croyance, Tawhid, à savoir Al-Mu'jiza. Al-Mu'jiza, c'est les miracles, hein, le miracle. Et on a parlé sur les miracles des prophètes, hein. On a parlé sur le miracle on a défini qu'est-ce que c'est qu'un miracle. On a donné la différence qu'il y a entre un miracle et de la sorcellerie et du charlatanisme et tout ce qui s'ensuit. Et on a aussi parlé des prodiges qui se sont des choses extraordinaires données par Allah Azza wa Jal à ses bien-aimés, à ses serviteurs, à ses saints. C'est-à-dire quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il peut lui donner des prodiges. On n'appelle pas ça des miracles, parce que les miracles concernent les prophètes. Par contre, les saints, on les appelle les prodiges. Al-Karamat. Wa athbitan lil awliya al-karama wa man nafaha fam bidhan kalama. C'est-à-dire que le karama, les prodiges, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est connu, d'ailleurs, qui sont cités même dans le Coran, wa huzzi ilayki bijid'i nakhlati tusaqat alayki rutban janiya. Maryam alayha salam, c'était une grande sainte. Allah Azza wa Jalla lui dit, juste tu fais bouger le palmier et tu auras toute la nourriture, hein, qui va descendre. Et c'est Zakaria, il rentre, il voit Maryam alayha salam, il trouve chez elle des fruits de l'été pendant l'hiver et ceux de l'hiver pendant l'été, hein. Elle lui dit, c'est Allah qui me donne ça. Donc les karamat, les prodiges, sont cités dans le Coran al-Karim. Et c'est connu aussi chez les Sahaba. Connu chez les grands saints, les grands savants de la Ummah. Et on a fait la différence entre le prodige et la sorcellerie. On a dit que la sorcellerie ou la magie n'a rien de vérité. C'est-à-dire, on fait de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie des yeux, c'est-à-dire, c'est de l'illusion aux yeux. Hein. Je ne parle pas des illusionnistes, des cirques, etc. Non, je parle de sihr, de la sorcellerie. Ils font des trucs qui... Ils font manipuler l'esprit, ils ensorcellent, voilà, l'esprit, naam. Et la vue des gens, comme ça s'est passé avec Sayyidina Moussa et les sorciers qui étaient là, ils ont ensorcelé les regards et la vue des gens jusqu'à ce qu'ils ont vu les bâtons se transformer en serpents. Et en vérité, voilà, exactement, c'est la modification de l'apparence au vu des gens et de leur esprit aussi. Par contre, le mu'jiza, le miracle, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut vérifier et qu'on sent. C'est une vérité. Sayyidina Moussa, quand il a jeté le bâton, donc effectivement, le bâton s'est transformé en un grand serpent et il a mangé tous les autres serpents qui étaient là. Bon. Donc tout cela, on en a parlé de grands prophètes, et on a parlé des miracles de Sayyidina Isa, on a parlé des miracles de Sayyidina Moussa, on a parlé des miracles de Sayyidina Ibrahim. Et voilà, on n'a pas parlé de tous les miracles de tous les prophètes parce que leur nombre il est très important, mais on a parlé de quelques prophètes et on a spécifié inchallah la séance d'aujourd'hui pour parler des miracles de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tslima. Sallu ala Rasulillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup beaucoup de miracles. Il a beaucoup de miracles. Ah. Wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar. Kathiratun ghurar. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte qu'il a plus de 1000 miracles. On rapporte qu'il a plus de 1000 miracles. D'accord. Alayhi salatu wa sallam. Il a plus de 1000 miracles. Donc, je vais pas les citer tous aujourd'hui. Donc, non, je vais citer quelques-uns. Inch'Allah, les plus connus, je vais citer quelques-uns. Mais 1000 miracles, il nous faut toute une semaine pour les citer. 1000 miracles, c'est quand même au minimum, c'est-à-dire ceux qui ont été recensés, parce que ceux qui ont été rapportés par les compagnons, etc. C'est-à-dire, on va les prendre par sujet. Si vous voulez, par nature, exactement. Vous avez des miracles de guérison où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a guéri un nombre très important de gens malades, de maladies très graves. De toute façon, vous avez un livre très important. Je vais noter Al-Shifa de l'imam Al-Qadhi Iyad, qui est un livre très important. Hein, Al-Shifa, il est même traduit. D'accord ? Al-Shifa. Non, c'est celui-là. Voilà, il est traduit. Voilà. C'est une très belle traduction. Ash-Shifa. 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 Voilà. Sur la reconnaissance des droits de l'élu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Traduit par Mohammed al-Fatih. Donc édition universelle. C'est une très très belle traduction. Donc, celui que j'ai lu, le frère, il l'a lu en français, on l'a lu ensemble. Donc il est très très bien traduit. Ash-Shifa fi huquq al-Mustafa en arabe. Ash-Shifa. L'écrivain, c'est Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad. Qadhi Iyad. Très, très, très ancien. Quatrième à peu près de l'Égypte. Hein? Quatrième, cinquième. À peu près. Donc, l'imam, c'est un grand hafiz malikite. C'est un grand spécialiste du hadith. Hein? C'est un grand, grand, grand hafiz malikite qui s'appelle Al-Qadhi. Qadhi Iyad. Hein? Qadhi Iyad. C'est un grand faqih malikite, savant spécialiste de la science du hadith. C'est un grand, 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 grand hafiz. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Donc, ce livre-là, c'est l'un des livres fondamentaux très importants qui parle, il nous définit la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous, en tant que musulmans, on ignore effectivement. Quand on lit ce livre-là, on découvre vraiment qu'est-ce que c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne traite pas que les miracles. Dans ce livre, il y a une partie qui parle des miracles. Mais dans ce livre-là, Ash-Shifa fi huquq al-Mustafa, c'est-à-dire la guérison, comment il a traduit ? La guérison sur la reconnaissance des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a des droits envers nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des droits envers nous. Nous lui devons beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ? Ses qualités, les miracles qu'il a laissés, son comportement, des choses extraordinaire que vous allez trouver dans ce livre. Entre autres, vous avez beaucoup d'ouvrages. Hein, j'ai pris celui-là. Vous avez celui de l'imam al-Qastallani. Imam al-Qastallani, dans le titre... je vais me rappeler après, Inch'Allah. Bon, je me rappellerai après, Inch'Allah. Donc, Shifa de Qadhi Iyad, pourquoi je l'ai donné comme exemple ? Parce que vous allez trouver... énormément de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous référez à ce livre-là, vous allez trouver énormément des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez beaucoup de livres, le frère Mohamed vous en parlera, Inch'Allah, quand il va parler de Sira, hein, il parle de Sira, Sira ibn Hisham, Tabaqat ibn Sa'd, dans le Bidaya Nihayat ibn Kathir, vous allez trouver dans les livres de Sir, vous allez trouver Tabari, vous allez trouver dans tous les livres de Sira, vous allez trouver, ils vont traiter le sujet des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on va les qualifier par sujet, vous avez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, il avait guéri un nombre très important de gens qui étaient très malades. Hein? Ne serait-ce l'aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui voyait, ensuite il est devenu malade, mais il n'a jamais vu. Kitab al-Tibb al-Nawawi, donc c'est une hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yurshid fiha ila amrad. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yurshid ila ba'd al-amrad ou kada diruha. On parle des miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lui directement avec sa main. يعني بيده أو بريقه avec sa, sa, hein, sa salive directement. Donc c'est pas une prescription médicale, il dit telle plante ou telle ceci cela, comme l'a rappelé Ibn al-Qayyim dans son livre, ou bien l'imam Suyuti ou d'autres. Mais directement, il agit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tel ou tel, tel malade. Et
sur inspiration divine, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Les miracles, c'est un soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est Allah Azza wa Jal. C'est une preuve. Le miracle, c'est une preuve que ce prophète-là, que cette personne que vous avez devant vous, c'est une preuve que c'est un prophète, que le message qu'il ramène, ce n'est pas de lui. C'est-à-dire, c'est un message d'Allah Azza wa Jal. Voilà, c'est des preuves. Tous les miracles, ce sont des preuves. Donc, on a un nombre très important de malades que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a guéri. On a même un mort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à donner la vie, etc. Vous avez, on peut citer aussi les miracles célèbres, par exemple le jaillissement de l'eau d'entre les doigts, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah, dans le jour de l'Hudaybiyah. Donc les compagnons, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc les compagnons se sont rassemblés, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont été lui dire, voilà, on a une petite bassine, ils étaient 1500, les musulmans, ils étaient 1500. Ils ont dit à Rasulallah, voilà, notre nombre, il est 1500, et il ne reste que cette petite bassine d'eau. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, rapidement, il a entré sa main dans la bassine, et il a sorti sa main comme ça, ça devient comme des tuyaux. Chaque doigt, il a demandé à leurs compagnons de ramener tout ce qu'ils ont comme seau. Ils ont commencé à ramener tout ce qu'ils ont comme seau, etc. Donc chaque doigt jaillit comme un tuyau. Chaque doigt, ils donnent de l'eau. Ils ont, le rapporteur du hadith, Jabir ibn Abdillah, dit, on a tous rempli ce qu'on avait comme bassine, seau, etc. On a tous rempli. Il jure, il dit, nous étions, il dit, on a tous bu, nous avons tous fait lourd, etc. Même les animaux, les chevaux, etc. Il dit, on était 1500, même si on était 100 000, ce que j'ai vu de l'eau sortir de sa main, sallallahu alayhi wa sallam, va nous suffire, même si on était 100 000. Il le dit, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. Donc ça, c'est un des grands miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre miracle, l'augmentation de la quantité de nourriture. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim aussi. Naam. Non, c'était dans un voyage. Ça c'est un autre. Celui-là, c'est dans un voyage. C'est Abu Huraira, radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a plus rapporté des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'à un moment donné, les compagnons, ils ont constaté que la nourriture commence à manquer. Donc, Sidna Abu al-Khattab, il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi, ya Rasulullah, on ne rassemble pas toute la nourriture, parce que chacun il avait une nourriture chez lui, un petit peu. Et il a dit, pourquoi on ne rassemble pas toute la nourriture et que tu nous fais un doua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez ramener tout ce que vous avez comme manger. Tous les compagnons, ils ont ramené. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lire le Coran et faire un doua sur c'est-à-dire ce qu'ils ont rassemblé comme manger. Et le rapporteur du hadith, Sidna Abu Huraira, dit que tous les compagnons, tous les gens venaient, c'est un grand supermarché. Ils prenaient rien à diminuer de ce qu'ils ont laissé. Tout le monde prenait, c'est comme si le manger, plus eux, ils prennent, plus le manger revenait. Et le hadith dont fait allusion le frère aussi, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été une fois dans une des batailles, le manger a diminué, tellement diminué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une pierre, hein, tellement il serrait son ventre avec une pierre, et sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été invité par un des compagnons. Un des compagnons l'a invité, sa femme lui a dit, voilà, on a un peu de manger, est-ce que tu peux inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, d'accord, je vais voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il y a ça, il y a aussi l'histoire, barakallahu fik, l'autre histoire dont je parlais, c'est que le compagnon a été invité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'a fait Rasulullah, il a ordonné à un des compagnons d'aller faire un ibarra, d'aller appeler tout le monde. Il a appelé tout le monde. Donc là, le mari de la femme, il avait peur. Elle lui a dit, apparemment, tu n'as pas bien expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, non, je lui ai bien dit que tu viens toi et Abou Bakr Siddiq, faqat, seulement. Il a dit, mais regarde, il est en train. Donc la femme, elle a dit à son mari, puisque tu lui as bien expliqué, il sait très bien ce qu'il fait. Ah, ils avaient les yaqin, ils avaient confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient une sorte de tente, c'était une sorte de, c'est comme la queue, hein, toute la ville, tous les compagnons, leurs femmes, etc., ils sont venus, et le manger avait un seul plateau. Ils s'asseyaient, ils rentraient, ils mangeaient, ils sortaient. C'est-à-dire, ils rentraient par cette porte, ils sortaient de l'autre porte. Bon, c'est une sorte de grande tente. Ils juraient, les sahabas qui mangeaient, ils juraient qu'en mangeant, le lokma, elle poussait. Ils voyaient que le manger poussait dans dessous. Dès qu'ils mangent, hop, une autre la remplace dans dessous. Donc, c'était des centaines et des centaines qui ont tous mangé, hein, à leur faim, etc., etc. Un autre... Donc là, je suis en train de citer les grands miracles qui sont cités chez Bukhari, Muslim, qui sont... Et pour le miracle, il faut, je tiens à remarquer que si le miracle, il est rapporté, parce que si quelqu'un, il va nier un miracle, hein, il va dire, non, moi, je ne reconnais pas le miracle, etc. Si c'est un miracle qui est rapporté, on a parlé, qui est rapporté dans un hadith sahih, un hadith authentique, mais rapporté par chaîne de transmission, mutawatir, c'est-à-dire rapporté par plus de 10 dans chaque... on va dire dans chaque étape rapportée par plus de 10, au minimum 10, jusqu'à Bukhari ou Muslim ou bien celui qui l'a authentifié. Si, c'est-à-dire c'est un hadith sahih, mutawatir, si une personne remet en cause ce miracle-là, il devient kafir, devient mécréant. Par contre, si le hadith qui est rapporté, c'est un hadith sahih authentique, mais qui est rapporté dans une des chaînes par moins de 10, hein, devient hadith ahad. D'accord, c'est-à-dire 8, 7, 5, 6, là. Là, la personne qui le nie ne devient pas kafir, mais devient pervers, fasiq. D'accord? D'accord. Par contre, si le hadith il est faible, etc., donc il n'y a pas de problème pour ne pas croire à ça. Mais la majorité des hadiths, ce sont des hadiths soit authentiques, soit hadith hasana, des hadiths, on va dire, bons. Hein? Donc l'arbre, quand on dit sahih, il se peut qu'il soit sahih rapporté par... par une, deux, trois personnes, il se peut qu'il soit, on appelle ça ahad, qu'il soit rapporté par mutawatir, plus de 10 personnes.
Ah d'accord, ça peut être plusieurs.
Voilà. Donc, même le hadith, c'est pas parce qu'il est sahih qu'on le prend directement. D'accord.
La divergence entre
le sahih et le hasan, c'est que sahih, ceux qui... D'ailleurs, il y a cinq... On va pas faire, il y a cinq conditions pour le hadith sahih. Il a cinq conditions pour qu'il soit sahih. C'est-à-dire il faut que la chaîne de transmission soit continue. Il faut pas qu'il y ait dans ce qui le rapporte un shudud ou illa, c'est-à-dire un shudud ou illa, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait un autre qui est rapporteur des hadiths, qui est plus fort, qui raconte quelque chose qui contredit ce hadith-là. Il faut que le rapporteur soit dhabit. Il faut que quelqu'un dit, dès qu'on lui demande, il le rapporte. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui oublie. C'est-à-dire, il y a des choses qui concernent celui qui le rapporte, et il y a, hein, fiable, bien sûr. Il faut que, et ensuite, non seulement il faut qu'il soit quelqu'un qui apprend, qui se rappelle du hadith, mais il faut qu'il soit quelqu'un de adl, adl, quelqu'un de juste. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va manger maintenant, il va acheter une pizza, il mange dans la rue, ah, il va rigoler, chanter, etc. Ce n'est pas quelqu'un de adl. Bien que ce n'est pas haram, c'est-à-dire il mange, mais c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit droit, quelqu'un qui fait la prière en son temps, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui ne fait pas des grands péchés, quelqu'un qui... Les petits péchés, il ne les fait pas tout le temps. Quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui est connu par sa droiture, quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jalla, etc. Donc il y a ça les conditions. Pour le, ça, c'est les mêmes conditions du hadith al-Hassan, en fait. Hadith sahih Hassan. Juste pour le hadith Hassan, c'est-à-dire si quelqu'un, les rapporteurs sont des gens qui sont moins, on va dire, authentificateurs, moins qui apprennent, ils n'ont pas une bonne mémoire comme ceux de Sahih. Ceux de Sahih, il faut qu'il y ait une bonne mémoire. Ceux de Hassan, ils ont une mémoire, mais pas aussi forte que ceux de Sahih. D'accord? Donc il y a pas. Mais par contre, donc s'il y a une de ces conditions-là qui manque, le hadith devient vaïf. Une des cinq conditions que je vais te citer. Un jour, on fera ça, Inch'Allah. Donc, pour l'arbre qui parla au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ma'in ibn Abdurrahman, le hadith, on le trouve rapporté par l'imam Bukhari Muslim aussi. Quand les djinns, vous vous rappelez la sourate des djinns, il y a un groupe de djinns qui est venu entendre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le Coran, d'ailleurs, un sourate des djinns. Qui est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a un groupe de djinns qui sont en train d'écouter, c'est un arbre. C'est un arbre. Hein? C'est un arbre qui a parlé, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a un groupe de djinns qui sont en train... C'est-à-dire, pour revenir à... frère, pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, par les miracles, par chapitre, etc., par sujet, on a dit, c'est-à-dire, tellement il y en a beaucoup, les savants ont dit, nous allons parler par sujet. C'est-à-dire, il y en a ceux que, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a guéri, le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la botanique, avec les arbres, avec les animaux, plein d'animaux qui ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba qui étaient là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une dame qui voulait l'empoisonner, elle lui a mis du poison dans la viande et elle lui a donné soi-disant, c'est-à-dire pour lui et ses compagnons, il leur a dit, c'est cet animal qui m'a dit qu'il est empoisonné. Mais il y a un sahabi qui a déjà mangé, donc il est mort, etc., etc. Donc on a pas mal d'animaux qui ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a énormément d'animaux qui ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons trouvé tout un chapitre de différents animaux qui ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans parler des animaux qui étaient la chèvre, qui était une vieille chèvre qui ne donnait pas de lait, le professeur s'est passé. Il y avait une dame sous une tente, une vieille, elle a dit, est-ce que vous avez quelque chose? Elle a dit, on n'a rien, on a une petite chèvre, elle a dit, ramène-la, elle n'a pas de lait, ramène-la. Donc le professeur sallam, il a tété comme ça, il a dit, bismillah, elle a donné du lait, elle n'a pas arrêté de donner du lait. Donc il y a énormément de miracles dans ce sens-là. Il y a un autre miracle... Donc pour hadith Anas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de monter sur un tronc de palmier pour ses serments. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le tout le monde, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc khutab al-jumu'ah, il n'y avait pas un mimbar, hein, ce n'est qu'après. Donc il y avait un palmier coupé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté. Une fois que les compagnons ils ont fabriqué un petit mimbar, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a monté, tous ceux qui ont assisté à cette prière du vendredi, ils ont entendu le palmier en train de pleurer. Il pleurait. Non, il pleurait. Hein, il pleurait comme une chamelle, comme un bébé. Il pleurait. Et tous les compagnons et ceux qui ont rapporté le hadith, ils ont entendu ça, c'est des miracles. Aussi, le salut de la pierre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a à la Mecque une pierre qui me saluait au cours des nuits où Dieu m'avait suscité comme prophète. Maintenant je la connais. Rapporté par l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Muslim. Il n'y a pas que cette pierre, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup d'arbres qui sont rapportés par le Qadi Iyad et par l'imam al-Qastalani aussi, l'imam al-Bayhaqi, entre autres, où beaucoup de pierres saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc, les miracles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le jour où lui ont demandé un défi, voulait-le, parce que les Qurayshites, les kuffars, voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent lui lancer un défi pour lui prouver que tu n'es pas prophète. Ils vont lui demander quelque chose qu'il ne pourra pas faire, hein, il ne peut pas réaliser. On a parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris son épée, Shaq al-Qamar, il a pris son épée, ils lui ont dit, écoute, ils savent très bien que s'ils commencent à lui demander des choses de la terre, donc ils se disent tellement il est fort, il va les réaliser, on va lui demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc cette lune, est-ce que tu peux la diviser en deux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une épée, il a dit bismillah, shaqq al-qamar. Hein? Il y a toute une sourate qui parle de ça. Et ensuite, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, il a ensorcelé nos yeux. Il a dit, si vous avez ensorcelé vos yeux, patientez les caravanes qui sont en plein désert, quand ils vont arriver d'ici un mois, demandez-leur si tel jour... moi, je ne sais pas quelles sont les caravanes qui sont en plein désert. Quand les caravanes sont rentrées, qui font du commerce, qui vont au Yémen, qui vont en Syrie, etc., ils ont demandé, ils ont dit oui, on a vu ce jour-là une chose incroyable, c'est que la lune s'est divisée en deux, si nous allons vous dire ça, vous n'allez pas nous croire, si. Il y en a ceux qui ont cru, évidemment, il y en a kuffar qui voient les miracles avec leurs yeux et qui ne croient pas. Donc il y a énormément de miracles de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dont vous pouvez trouver dans les livres de Siyar, hein, qui sont bien détaillés avec chaîne de transmission, surtout celui de l'imam Qadi Ayad, et c'est un savant du hadith, il rapporte avec chaîne de transmission de lui jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi. Le plus grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran al-Karim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des miracles, effectivement. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles. Mais le plus grand miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran al-Karim. وَمُعْجِزَاتُهُ كَثِيرَةٌ غُرَرٌ مِنْهَا كَلَامُ اللَّهِ مُعْجِزُ الْبَصَرِ. Le plus grand miracle, c'est le Coran al-Azim. Aywa. Pourquoi Al-Azim c'est le plus grand miracle? Allah Azza wa Jal, quand il voit, il envoie un prophète, il lui donne une force, il lui donne un justificatif, il lui donne quelque chose de garanti qu'en quoi il est un prophète, il va lui donner quelque chose qui va défier le peuple à qui il est envoyé, défier la communauté à qui il est envoyé, il va défier la tribu à qui il est envoyé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas envoyé à une tribu de Quraysh seulement, il n'est pas envoyé aux Arabes seulement, il n'est pas envoyé à la région de la Mecque seulement. Donc le Coran est censé être quelque chose qui va défier toute l'humanité jusqu'au jugement dernier. C'est ça le grand secret qu'il y a dans le Coran al-Karim, c'est qu'il porte en lui un défi qui va rester jusqu'au jugement dernier. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on peut lancer un défi à un peuple bien déterminé, dans un espace-temps bien déterminé. On connaît par exemple des gens qui sont spécialisés dans la médecine, on va leur envoyer un grand spécialiste en médecine, il va les battre. Mais comment peut-on envoyer un livre qui va rester un défi à travers tous les temps? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a lancé des défis à l'humanité jusqu'au jugement dernier de ramener une sourate qui ressemble au Coran al-Karim. Il a donné des défis de ramener ne serait-ce 10 sourates, ensuite de ramener 10 versets, ne serait-ce un seul verset. Aya wahida. Donc Allah Azza wa Jal a énormément de défis dans le Coran al-Karim et l'humanité n'arrivera jamais, jusqu'à présent n'a pas arrivé, et n'arrivera jamais à ramener une seule parole qui est au niveau du Coran al-Karim. Et on va voir pourquoi, bien que c'est en français. Donc on va essayer de lire, on va essayer d'expliquer rapidement, Inch'Allah, parce que comme le Coran, c'est le verbe, c'est la langue arabe, donc ça, il a défié les Arabes. Pourquoi? À l'époque de Sidna Moussa, il y avait la sorcellerie qui était, hein, ils étaient célèbres, Allah Azza wa Jalla leur envoie Sidna Moussa, il a écrasé toute leur sorcellerie. Sidna Issa, à son époque, la médecine, elle était évoluée, il leur envoie Sidna Issa, il revivait les morts, et donnait la guérison aux plus graves maladies, etc. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Quraysh, c'était des gens qui étaient très 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 calés dans la langue arabe. C'était des gens très très forts dans la langue arabe. Donc, le verbe, pour eux, c'était très très fort. Ils étaient très célèbres, étaient très connus. Hein. C'est pour ça que les gens d'aujourd'hui, nos frères, qu'Allah nous pardonne, ils leur pardonnent, qui croient comprendre, même s'ils sont arabisants, qui croient directement comprendre le Coran, sans se référer aux commentateurs, ils se trompent. Hein, parce que dans la langue arabe, il y a de la métaphore. Il y a l'istihara, il y a le majaz, il y a le balara, il y a l'assarf, il y a toute la force et toutes les structures de langage, de la belle, du beau verbe et du tranchant. C'est-à-dire le verbe, il est beau, il est tranchant. Il est. Nous allons voir, Inch'Allah, nous allons donner des exemples. C'est-à-dire qu'à l'époque de Quraysh, il y avait une sorte de concurrence entre les tribus. Chaque tribu avait des poètes, hein, qui lançaient des défis aux autres tribus. Là, c'est comme s'il y avait une guerre, on va dire, d'information. Hein. Chacun il va ramener son poète, il va donner de la poésie sur place en plus. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va les attendre. L'autre, il vient, il trouve le groupe, ils sont en train de faire tel. Il faut que le poète soit quelqu'un qui... Voilà, il va donner une poésie sur place et vraiment forte pour anéantir l'autre. Il y avait des grands poètes, il y avait des grands, des gens qui, la poésie, elle était forte. Hein. C'est de la poésie qui avait des sujets, qui avait un sens, qui avait, etc., etc. Alors, quand le Coran Karim a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous choqués. Ils étaient choqués à un degré incroyable. C'est-à-dire les grands, poètes, les grands connaisseurs de la langue arabe, ils n'arrivaient pas à sortir un seul verset comme ce Coran-là. Ils sont restés bouche bée. C'est là l'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de cela, Inch'Allah. En quoi consiste le miracle du Coran? Les divers aspects du miracle du Coran. Premier aspect, sa bonne composition, la concordance de ses paroles, son éloquence, les divers aspects de sa concision et la puissance de son verbe qui dépasse toute forme d'éloquence comme chez les Arabes. Donc la bonne composition, c'est-à-dire les versets, comment ils sont composés, hein? Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. C'est-à-dire il y a une composition extraordinaire entre le verbe, la parole, le sujet, le contenu, etc. Ensuite, vous avez la forme d'éloquence. Un grand Quraishite, Al-Walid ibn al-Mughira, entendit ces paroles de Dieu exalté, quand Allah Azza wa Jal dit, Dieu prescrit l'équité, la recherche de l'excellence dans les relations avec autrui et l'assistance bienveillante envers les proches. Il proscrit la turpitude retrouvée, l'inconvenance, stigmatise la violence injustifiée. Dieu vous exhorte ainsi que vous incitez à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a dit? Al-Walid a dit, par Dieu, ce discours a une douceur et une beauté certaine. Sa base est fertile et son sommet est lourd de fruits. Un simple humain ne prononcerait pas un tel discours. Subhanallah. C'est-à-dire que ce sont des Arabes qui connaissent la langue arabe. Dès qu'ils entendent quelque chose, il a dit, bien que ce n'est pas des musulmans, il a dit c'est impossible. C'est impossible. Inna alayhi la talawa. C'est-à-dire il a dit que c'est comme si j'entends une parole, mais c'est du miel. Mais c'est fort, c'est contenu. C'est-à-dire en même temps, c'est quelque chose qui est bien, qui est beau, qui rentre dans le cœur. En même temps, c'est quelque chose de fort. En même temps, il a une connotation dans l'oreille. En même temps, il est équilibré. C'est-à-dire on ne va pas trouver. En même temps, ce n'est pas de la poésie. Oui. Deuxième aspect, l'image de sa composition merveilleuse, de son style original, différent de la façon de parler des Arabes. C'est-à-dire les Arabes, ils avaient une façon de parler. Il y a même des mots, eux, c'est-à-dire les Arabes, d'ailleurs les Sahaba, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que... Hein, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils se demandent entre eux qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des mots que, c'est-à-dire des mots qui sont très 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 anciens, ils n'existent plus, que le professeur sallam, c'est-à-dire on les trouve dans le Coran Karim, ou bien des mots persans qui sont arabisés, qu'on trouve dans le Coran Karim, hein, istabrak, le mot istabrak par exemple, il y a beaucoup beaucoup de... Il y a énormément, énormément de mots que les Arabes ne peuvent pas. Le style du Coran marquant à la fin de ces versets et aboutissant à des paroles tranchantes, un style unique. Nul n'a pu l'imiter, les Arabes ne purent trouver le moyen de produire son pareil. C'est-à-dire, même quand on voit comment il se termine, le Coran Karim, on prend des petites sourates. Quand Allah Azza wa Jalla traite le sujet de Abu Lahab, dont le frère Mohammed en a parlé la dernière fois, Abu Lahab qui faisait du mal avec sa femme professeure. Comment Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire nous, si on va faire une conférence sur quelqu'un qui fait du mal, on va faire un colloque, chacun va parler, tout. Allah Azza wa Jalla, dans une petite phrase, Tabbat yada Abi Lahab, wa tab, ma aghna anhu ma lahab. Subhanallah, Tabbat yada Abi Lahab, wa tab, ma aghna anhu. Yani, subhanallah, on voit que Allah Azza wa Jal, il traite, il parle, ensuite il donne un surnom, parce qu'il ne va pas le valoriser, il ne va pas lui donner, il va pas le nommer, ce kafir, dans le Coran, donc il lui donne un surnom, Abu Lahab, le père du feu, hein, Watab, c'est-à-dire, subhanallah, il y a le ba, mais avec ce qu'on appelle dans le tajwid, le qalqala, qui donne une qalqala, qu'on dit tab, ça c'est le qalqala, qatta, adj, padd. Il y a des lettres contre Boujadin, ces lettres-là, donc ces lettres-là, on a le droit de faire qab. Donc ce n'est pas toutes les lettres qui ont cette connotation. Quand on lit la langue arabe, on découvre cette force. Ici, c'est le sujet, il est tranchant, il est fort, il est destiné à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Mais par contre, quand on Allah Azza wa Jalla parle des gens de douceur, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wa idha marru billahi mar. On regarde que le discours change quand il s'agit des gens qui sont bien, des saints, les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ce style-là, il a choqué vraiment, perturbé les Arabes qui n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de discours. On rapporte aussi Utba ibn Rabi', un grand Qurayshite aussi, entendit le Coran, il dit, bien qu'étant parmi les plus grands ennemis de l'islam, il dit, aux gens, il parle aux kuffars, vous savez très bien que rien de ce qu'ont dit les Arabes ne m'a échappé. Il dit que tout ce que les Arabes disent, je le connais. C'est un grand fin connaisseur de la langue arabe. Je l'ai forcément su, lu et relaté. Par Dieu, je viens d'entendre un discours dont je n'ai jamais entendu pareil. Ce n'est ni de la poésie, ni le parler des magiciens, ni celui de devins. Ensuite, Mousselem, il rapporte tout ce qu'il a dit, ce personnage. Donc, la force du Coran, qu'on sait, dans la concision et l'éloquence même, le style original en soi. C'est-à-dire, il a un style propre à lui. Le Coran al-Karim, c'est-à-dire, il a une sorte, c'est rythmé. Regardez, même quelqu'un qui ne comprend pas la langue arabe, quand ils entendent les récitateurs du Coran, il y a des gens qui pleurent même s'ils ne comprennent pas. Subhanallah, on a vu des Indiens, des Pakistanais, etc. Des gens qui ne comprennent pas la langue arabe. Ils peuvent pleurer. Pourquoi? Parce que ça part directement au cœur. C'est quelque chose c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est chargée de spiritualité, etc. Oui. troisième aspect. Bien sûr, nous allons parler. Bien sûr, nous allons parler de ça, c'est important. Troisième aspect, les informations qu'il rapporta sur la jeunesse et l'origine de la vie depuis le début de la création jusqu'à l'époque où le Coran a été révélé. Donc, le Coran al-Karim traite, c'est-à-dire ça, quand on parle de la force du verbe, etc., de la langue arabe, de comment c'est très très fort qu'il a laissé figer parce qu'il les défiait, parce que ils voulaient bien prouver au professeur Hassan que le Coran al-Karim, c'est quelque chose qu'eux peuvent ramener. Mais aucun parmi eux qui a pu faire face au prophète. D'ailleurs, ils ont interdit aux musulmans de réciter, tellement ils voient qu'il a une portée sur les cœurs des gens, donc ils ont interdit aux gens de réciter le Coran al-Karim, c'est-à-dire chez eux, hein, les musulmans, ils racontaient à voix basse, même comme on va le voir, il y a des musulmans qui sortaient. Quand ils sortaient, ils vont aller dans les montagnes pour réciter un peu le Coran al-Karim. Regardez, nous, alhamdoulilah, c'est-à-dire, on peut réciter le Coran al-Karim, acheter des cassettes, entendre, sans problème. Mais eux, subhanallah, les premiers compagnons du professeur Hassan, ils avaient peur, parce que ils ont interdit aux gens de réciter le Coran al-Karim, parce qu'ils savent qu'il a une portée incroyable, il prend les cœurs. Oui, parce que c'est des Arabes, ils comprennent. Alors, il y a des choses aussi plus importante sur les miracles, c'est que le Coran al-Karim, il rapporte tout ce qui s'est passé. « Wa khabaru ma qablakum, wa naba'u ma ba'dakum, wa hakamu fi ma baynakum. » Voilà, il parle de ce qui de l'origine de l'humanité. Il parle de Sina Adam. C'est des choses que les Arabes, les historiens, mais le professeur Asselam n'avait pas appris chez un historien, un spécialiste. C'est un illitré, il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Il n'a jamais enseigné. Les gens de Quraysh, ils le connaissent. Ils connaissent le professeur. Il n'avait pas de contact avec les gens, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs, pour qu'ils lui donnent quelques informations. Non, c'est quelqu'un qui s'occupait d'un berger. Ensuite, il faisait du commerce, quelqu'un d'honnête, etc. C'est ce qu'ils connaissent de lui. Donc, quand le professeur Asselam leur a dit qu'il est prophète, les chrétiens et les juifs sont venus rapidement pour lui lancer des défis. Donc, il lui posait des questions. Si tu es un prophète, donc tu dois connaître. C'est Moussa. Il lui posait des questions sur Sina Moussa. Il lui ramène toute leur. Sina Issa, il lui ramène toute leur vie. Sina al-Khadr, donc Dhulqarnayn, Alexandre, etc. Donc, à chaque fois qu'il lui lance Dhulqarnayn, Alexandre le Grand. Donc, à chaque fois qu'il lui lance un défi, le professeur Assalam le ramène avec des versets, avec une force de Coran al-Karim, avec des versets, etc. Donc là, c'est un défi. Pourquoi? Parce que il y a même des événements et des histoires que personne ne connaissait, ni les juifs à l'époque du professeur, ni les chrétiens, ni les arabes. Ils leur ramènent des histoires des tribus et des nations qui ont été anéanties dans l'histoire, n'en parle même pas. Donc dans le Coran, on trouve ça. Un autre aspect, quatrième aspect, l'annonce d'événements futurs. Donc là, c'était le passé. Il y a l'annonce des événements futurs qui est annoncé dans le Coran al-Karim. Ça, c'est un grand, grand miracle aussi. Parce que, d'accord, les événements, peut-être, en plus, on peut, dans les anciens événements, l'histoire, on peut ramener une, deux, trois, quatre informations, mais pas des dizaines, pas des centaines. Et en plus, en bon uniforme, rien n'est taché, aucune erreur. De l'histoire de Sidna Moussa, il n'y a aucune erreur. Les Juifs, s'ils avaient trouvé quelque chose qui n'est pas, ils vont le dire directement, non, c'est pas 40 jours qu'il est resté, il est resté 37 jours. C'est... Non, Sidna Issa, la même chose, Marie, son fils, etc. Sidna Nour, Idriss, Youssef, Sidna Youssef avec ses frères. Donc tout, il n'y a aucune erreur. C'est ça ce qui est extraordinaire. Donc pour les événements du futur, le prophète, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim? Oui, vous ferez votre entrée en toute sécurité par la grâce de Dieu dans les demeures sacrées, tête rasée, aux cheveux coupés courts, vous n'y aurez plus rien à craindre. Donc il leur parle, déjà à l'avance, il leur parle que ne vous inquiétez pas, nous allons rentrer, Inch'Allah, Fath Makkah. C'est extraordinaire. Et les musulmans, ils sont faibles. Comment ça, Rasulallah, nous sommes faibles, nous sommes les Quraysh, les Koufars, les tribus qui sont tous contre nous. Vous allez rentrer. Il dit même à un sahabi, toi, tu vas rentrer dans le tel palais de Perse, etc. Et tu vas mettre sur ta tête tel bijou. Allahu Akbar, un pauvre moi, un bédouin. Oui, ça va se passer. Tout ça s'est passé. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, parce qu'il y avait des guerres entre les Perses et les Byzantins et les Perses. Les Byzantins ont été vaincus dans un pays voisin, mais après leur défaite, ils seront à leur tour vainqueurs. Dans moins de 10 ans, tout dépend souverainement de Dieu. Allah Azza wa Jal dit que les Byzantins, c'est les Romains. Hein? C'est les Romains. C'est les Romains. C'est les Romains. Ils étaient battus. Allah Azza wa Jalla leur dit, moins de 10 ans, il dit, vous allez gagner, ils vont gagner une bataille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand défi qu'il lance là. Les gens de Quraysh, ils ont comme dit, oh, regarde, qu'est-ce qui... C'est comme si, les Romains, quand ils étaient battus, anéantis, comment ils vont regagner la bataille contre les Perses, etc. Donc effectivement, ils ont regagné la bataille, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yafarah, na'am, la plus bas dans le monde. Subhanallah. Voilà. Ça, c'est un miracle scientifique. Il y a des miracles. Il y a des miracles que c'est aujourd'hui qu'on les découvre. Et on va les découvrir. Il y a énormément de miracles. Vous avez. Allah Azza wa Jal, par exemple, dit dans le Coran al-Karim, on va parler des miracles scientifiques. Qu'il défie, il lance un défi. Allah subhanahu wa ta'ala, il lance un défi. Il dit. C'est nous qui avons fait descendre le livre du rappel, le Coran, et c'est nous qui en assumons la conservation. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit, que personne ne peut falsifier le Coran al-Karim. Ça, c'est un défi que Allah Azza wa Jal lance à toute l'humanité. Maintenant, 14 siècles, il y a eu des tentations de falsification du Coran al-Karim. Ah, on a imprimé des Corans, faux Corans, hop, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire les gens, ils apprennent par cœur, ils transmettent, mais tawatur, des générations à des générations. Tu peux imprimer tout ce que tu veux, tu peux falsifier ce que tu veux. Rien. Le Coran al-Karim, il restera jusqu'au jugement dernier. Dieu te protégera contre les hommes, ils ne pourront pas atteindre ta vie. La table servie. Allah Azza wa Jal dit au prophète, ne t'inquiète pas, personne ne peut te toucher. C'était un défi. Il pourrait venir et tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le blesser, etc., lui faire du mal pour dire, ah tiens, regardez, le Coran al-Karim. Non, ils n'ont pas pu faire. C'est un défi que Allah Azza wa Jal leur donne. Cinquième aspect, la beauté bouleversante de sa lettre qui émerveille les cœurs de ceux qui l'écoutent par sa composition unique et ses effets sonatiques et le grand respect qu'il éprouve à la lecture. Quand on écoute le Coran al-Karim, il a une portée, hein, surtout ceux qui comprennent la langue arabe, il les prend, subhanallah. On rapporte aussi que bon, les compagnons qui se cachaient dans les montagnes, etc. J'ai dit tout ça. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Dieu a révélé un discours sublime, un livre dont les versets ont différents sens complémentaires dans leur ressemblance et se répondent les uns aux autres par couple. Ceux qui craignent le Seigneur sont saisis d'une frisson pour se fondre ensuite corps et âme en une paix ineffable au souvenir de Dieu. Subhanallah. Il y a énormément, je passe hein, énormément d'aspects. Sixième aspect, c'est un miracle éternel qui échappe à l'impact du temps. Il gardera toute sa valeur sans aucune altération jusqu'au jour de la résurrection. Dieu exalté s'est chargé de la sauvegarde de toute falsification. C'est nous qui avons fait descendre le livre du rappel et c'est nous qui en assumé la conservation. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, ce livre, le savent-ils ? Et d'une valeur transcendante, inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne, étant révélée de la part d'un sage parfait, d'un très digne de louange. C'est-à-dire, ils peuvent chercher dans le Coran al-Karim tous les grands spécialistes, que ce soit dans la langue arabe. Et la langue arabe, elle est vaste. Et croyez-moi, il n'y a pas que des amis. Il y a énormément de spécialistes de la langue arabe qui sont des ennemis de l'islam. Il y a énormément. Des grands, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou après lui, ou aujourd'hui, on a connu des grands spécialistes de la langue arabe, vraiment des grands spécialistes de la langue qui sont des ennemis de l'islam. Ils ont essayé de chercher la moindre faille. Ils n'ont pas trouvé.
Et qui sont des arabes aussi
mais... C'est des arabes, bien sûr. C'est des arabes, mais bien sûr.
C'est pas que des orientalistes.
Non, c'est des arabes. C'est des arabes. Pas forcément chrétiens. C'est des gens athées ou bien... pas forcément. Ils peuvent être chrétiens ou bien des gens athées ou bien des druzes ou bien des gens... Oui, oui.
Ils sont athées,
voilà, peuvent être athées ou bien appartenir à une religion. C'est-à-dire, il n'y a pas que les noms arabes, c'est-à-dire, même les arabes, connaisseurs même du verbe, ils n'ont pas trouvé une faille, ils n'ont pas trouvé, s'ils ont trouvé une toute petite faute, subhanallah, ils vont la déclarer. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui est important, c'est que les savants musulmans sont là. Dès qu'il y a une attaque, les savants leur répondent. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas de savants, quelqu'un peut prétendre. Dire qu'on a aussi des grands spécialistes parce que celui qui s'inspire du Coran, il est fort. D'ailleurs, même les grands spécialistes après de la langue arabe prennent comme référence au Coran al-Karim pour dire voilà, ça c'est juste, c'est pas faux. Subhanallah. Donc, sixième ou septième aspect, le fait qu'il ait englobé des sciences et des connaissances jusqu'à l'inconnu de tous les Arabes et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les savants des autres nations n'en avaient aucune connaissance, aucune de leurs livres, aucun de leurs livres n'en parlait. Ce livre contient à la fois l'exposé, écoutez bien, de doctrine et des législations. Donc il y a la législation, l'indication des méthodes de l'argumentation rationnelle. Donc non seulement il y a la législation, il y a l'argumentation rationnelle et la manière de refuter les dires des diverses nations. C'est-à-dire il y a aussi la manière de remettre, voilà. Quand Ibrahim Khalil parle avec Nimrod, hein, donc, il y a l'argumentation, l'analyse donnée, c'est-à-dire l'argumentation rationnelle. Il y a la législation, hein, l'héritage. Il y a tout ce qui concerne la vie, c'est-à-dire tout le rapport entre l'homme et Allah Azza wa Jal, et tout le rapport entre l'homme et l'homme. C'est extraordinaire, même entre l'homme et la nature, bien sûr. Avant, par des preuves claires dont les buts sont concis et faciles à saisir. Donc même l'argumentation, c'est pas quelque chose qui peut être pour quelqu'un qui connaît l'arabe. Dès qu'il lit, des bédouins qui connaissaient la langue arabe, ils ont entendu un seul verset. Subhanallah, un seul verset, deux, trois mots. Ils sont convertis. Ils ont dit, c'est pas possible, ça c'est pas la parole d'un être humain. Des bédouins, quand on est bédouins, c'est pas des ignorants, machin, laboureurs qui habitent dans... Non, c'était des gens qui étaient de classe, des gens qui connaissaient très très bien la langue arabe. Ils ont entendu, il y a deux bédouins, ils ont entendu un seul verset, ils ont dit, impossible que ce soit ça, c'est la parole d'un être humain. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est des fins connaisseurs de langue arabe. Subhanallah. Ils renferment aussi des sciences biographiques, les récits des nations révolues, les exhortations, al-mawa'id, les sagesses, al-hikam, les règles de bienfaisance et la courtoisie, mahasin al-adab al-shiyam, les informations sur le demeure ultime, al-akhira, et l'au-delà. Il n'y a pas un domaine de la connaissance que le Coran ait omis d'aborder, aucun art sans qu'il n'y ait attiré l'attention, aucune chose parfaite sans qu'il n'y ait exhorté. Le Coran ne cessera d'être une mer inépuisable de science, un phare guidant ceux qui cherchent la bonne route et la preuve de toutes les vérités, aussi bien les vérités essentielles que mineures. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, nous avons fait descendre sur toi le livre où toutes choses se trouvent expliquées et qui est aussi un guide sur une miséricorde et une annonce heureuse pour les croyants. Allah azza wa jalla a dit aussi, que d'exemples ne sont proposés aux hommes dans ce Coran pour les inciter à réfléchir. Il n'y a pas une chose qui est importante dans ce monde. Il n'y a pas une chose qui est importante dans ce monde-là, qui concerne la science, la connaissance, le savoir, dont le Coran al-Karim n'a pas traité. Le Coran al-Karim, il a traité toute chose, que ce soit dans le savoir et la connaissance, l'histoire, la législation, la croyance. Ensuite, les belles choses, il a fait l'éloge, il a rappelé, il a incité les gens à en parler. Et les mauvaises choses, toutes les mauvaises choses, le Coran al-Karim, il les a traitées, il les a refutées avec argumentation, avec rationalité, avec sagesse, etc. etc. Donc, c'est-à-dire, quand on imagine le Coran al-Karim, c'est-à-dire, on peut écrire un livre qui parle, par exemple, on a des mathématiques, voilà, c'est un grand spécialiste, mais après 2-3 mois, un an, hop, une autre théorie va remettre en cause tout ce qui a été dit aujourd'hui, hein, la relativité, elle est remise en cause, mais il y a d'autres qui disent, non, il a raison. Mais un livre qui est écrit par un illettré qui habite dans le désert, et qui rassemble toutes ses connaissances scientifiques, et qui sont un défi historique de législation et de savoir et de croyance pour l'histoire, pour législation, pour les gens, comment ils doivent se comporter, c'est-à-dire un commandement entre eux et pour l'avenir aussi. Aussi pour l'avenir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est une sorte d'encyclopédie qui traite tous les sujets et qui englobe non seulement la croyance, la législation, le savoir, les connaissances, mais en plus avec un langage, avec un verbe tranchant, beau, qui défie toute l'humanité, entre autres les Arabes. Huitième aspect, le Coran a ruiné à la fois la preuve et le sujet et l'argumentation. C'est-à-dire, en même temps, dans un seul verset, on va trouver tous les sujets d'argumentation, la beauté de la langue, le sujet, le verbe, il est tranchant, il est beau, il porte une connotation, en plus, il lance un défi. C'est-à-dire, dans une seule phrase, dans un seul verset, nous allons trouver plus d'un sujet. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux Arabes, parce que les Arabes, ils avaient l'habitude, quand ils parlent, ils font une poésie, ils traitent un sujet bien déterminé, et ils donnent des verbes bien, c'est des gens qui parlent très très bien la langue arabe, et qui donnent une poésie quand même très très, très, très belle, etc. Mais ils traitent un sujet de... Hein, mais le Coran al-Karim, il va traiter... énormément de sujets. Il va traiter un sujet d'histoire, il va traiter un sujet de législation, il va traiter un sujet de croyance, en plus avec une beauté, il va défier la rationalité. Tout cela, on peut le trouver dans un seul petit verset. Neuvième aspect, Dieu a rendu facile sa mémorisation à toute personne qui veut l'apprendre. Aussi, c'est très important. En même temps, ce n'est pas quelque chose de philosophique qui est... nous, Murtas al-Khalil, on l'a appris chez des chouyours, c'est un livre qui est écrit, il faut vraiment se casser la tête pour l'apprendre. Hein? On a une phrase, Cheikh, on a passé, je me rappelle, 15 jours pour l'apprendre. Une seule phrase. Hein? On lui dit répétez là, on la répète 15 jours. C'est-à-dire, le Coran al-Karim, subhanallah, c'est très 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 simple, c'est très facile, mais quand on le répète, subhanallah, il parle à l'âme. Hein? الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ensuite il a des défis, ça c'est la simplicité. Il va là-bas, كاف هيا عين صاد. Il va commencer par des lettres. Les Arabes, ils sont rachetés bit bé, parce que eux, ils avaient, jusqu'à présent, il y a ces lettres-là, on ne connaît pas leur sens. Ils ont, c'est-à-dire, c'est des lettres. Huruf, subhanallah. Kaf, ha, ya, in, sad. Qu'est-ce que ça veut dire, kaf, ha, ya, in, sad? Alif, la, mim, ha, mim, noun, wal, qalami, wa, ma, yasturun. Subhanallah, kaf, sad. Ils sont restés bouche bée. Ils ne savent pas. Il y a des commentateurs, ils donnent comme ça des possibilités. Mais il n'y a pas, voilà, des approximations. طيب اذا الله عز وجل في القران الكريم nous avons rendu le coran facile à retenir. Y a-t-il donc un seul homme pour en tirer la leçon? Subhanallah. Parce que quand on lit le coran الكريم on trouve ce qu'on cherche dans le coran الكريم si on a la bonne intention. Dixième aspect, le coran renferme une loi qui s'est engagée en un droit juste composé d'un nombre restreint de matières comprenant des principes de base et des sentences générales se rapportant à tous les domaines. Aucune autre écriture sainte n'a eu cette particularité. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons exposé toutes choses dans ses moindres détails. Ma farratna fil kitab min shay. Toutes choses. Onzième aspect, tout individu ayant une certaine connaissance des sciences humaines et des sciences exactes constate en consultant le Coran que toute vérité scientifique à laquelle l'esprit humain est prévenu a été mentionnée dans le livre saint. Ça soit par l'allusion, l'ishara, ou par l'affirmation explicite. Par exemple, ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent prouver que la Terre est suspendue dans l'espace. Il y a, surtout en astronomie, il y a des choses incroyables. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit, il a créé les cieux sans piliers que vous verriez, et il a assis solidement sur la Terre des montagnes pour qu'elles ne branlent pas sous vos pas. Quand on voit que des grands spécialistes chrétiens, beaucoup après que le professeur sallam, des siècles et des siècles, on dit que la Terre tourne, Galilée, c'est-à-dire le Vatican, il avait quand même une position, il les a châtiés. Au moment où des siècles avant le prophète, hein, il a dit que, c'est-à-dire, on parle de la Terre qui tourne, on parle du Soleil, on parle que la Terre et le Soleil tous tournent, qu'ils vont tous, c'est comme s'ils sont en train de nager, yesbahoun, hein, ils nagent. C'est-à-dire, c'est extraordinaire de dire que, quand même, à un moment, eux, les Arabes croyaient que la Terre, elle était plate. Tu vas lui dire qu'elle est suspendue dans un ciel, il n'y a pas de rien ne la retient, elle est ronde. Quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ne sont pas habitués à cela. Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran al-Karim, nous avons effectivement créé l'homme à partir d'une lignée extrait. Regardez, subhanallah, dans ce verset-là, Imam Sheikh Zindani, si vous trouvez ces ouvrages, vous entendez ces cassettes, exploitez-les. C'est une mine d'or, ce cheikh. En français, mashallah. Mashallah. Ceci est la vérité. Donc, Cheikh Zindani, on a assisté à beaucoup de ses conférences, subhanallah. Il va chez des spécialistes, des médecins, il les laisse bouche, mais des spécialistes des mers, des spécialistes des volcans, où Allah Azza wa Jal, quand vous voyez que le prophète, sallam, le Coran al-Karim, il citait même la façon comment, dès la naissance du bébé, les premiers jours, comment l'os il est formé, comment la chair se perçoit, c'est-à-dire, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit, Nous avons effectivement créé l'homme à une partie. L'ingé extrait de l'argile, puis nous en fîmes un peu de liquide spermatique dans un lieu de fixation solidement implanté, puis nous fîmes du liquide, une sorte de sangsue, de la sangsue, un morceau de chair, du morceau de chair des os, nous recouvrîmes alors les os de muscles, puis nous en fîmes une autre créature par l'insufflation de la vie. Subhanallah, Allah Azzawajal donne toutes les étapes. Les étapes, hein, notfa, mudra, alaqa, mudra, subhanallah, toutes les étapes que, et effectivement, mudra, c'est quelque chose que tu mâches quelque chose et tu laisses, et effectivement, à un moment donné, c'est comme si, quand on voit, même maintenant avec l'échographie, quand on voit le bébé, à un moment donné, c'est comme si tu as mâché quelque chose, c'est un petit morceau que tu as mâché. Ajib, à l'époque du professeur Hassan, il y avait une radio, il y avait une échographie, non, ça fait. Dans ce verset-là, exactement là. Exactement. La sensibilité est dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal dit à chaque fois quand ils seront en enfer, pour qu'ils goûtent, ils seront châtiés, à chaque fois que leur peau elle est brûlée, on va leur donner d'autres peaux pour qu'ils goûteront le châtiment. Quelqu'un, à l'époque de, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens ils étaient ignorants, ils se disent, même quand on n'a pas de peau à l'intérieur, la chair elle va sentir. Hein, quand on brûle. Au fait, la chair à l'intérieur, c'est-à-dire en dessous de la peau, elle ne sent rien. Même elle est brûlée, elle ne sent rien. Ce qu'il sent, c'est la peau. Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran al-Karim, cette peau, une fois qu'elle est partie, ils vont ressentir autre chose. Ils vont ressentir parce qu'on va leur donner une autre peau. Une fois, ça c'est une preuve, subhanallah, scientifique. L'imam Zandani rapporte énormément de... Il y a même le Coran Karim, il parle par exemple quand on prend les océans, il parle des deux mers, une mer qui est salée, une mer qui est douce. Hein? Ils sont là, il n'y a rien. On parle aussi des vagues en plein océan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il a vu la mer, où est-ce qu'il a vu l'océan? En plein océan, vous avez des vagues, les vagues. Tout le monde sait qu'il y a des vagues. Mais qui savait qu'il y avait des vagues à l'intérieur, tout en bas de l'océan? Il y a énormément de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a énormément de défis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a traité le Coran al-Karim. Hein, on en a parlé, on va se limiter à cela, Inch'Allah, pour céder la place au frère Mohamed. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler, nous allons continuer, donc, Inch'Allah. La particularité, donc, le Coran al-Karim, c'est un défi énorme à l'humanité. Non seulement, le Coran al-Karim, c'est un livre qui parle de la croyance, de la législation, des informations, des gens qui ont précédé. Les communautés, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de ce qui va se passer à son époque, qui va se passer après. Donc, fihi khabaru, naba'u ma qablakum, khabaru ma ba'dakum, hakamu ma baynakum. Donc, c'est une législation, c'est une croyance, c'est un livre d'histoire, il y a de la science. On a tout. En plus de ça, la beauté de la langue arabe, tout cela, on peut le trouver dans un petit verset de Al-Qur'an al-Karim. Tout ça, c'est un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lance, non seulement aux Arabes qui connaissaient la langue arabe, qui étaient un peu scientifiques. Regardez, les défis scientifiques Al-Qur'an al-Karim, ils sont destinés à qui? Ils sont destinés à ceux que aujourd'hui, les gens, ils sont des gens de science, de technologie. Aujourd'hui, les gens, à travers la technologie, ils découvrent, la cellule a été citée Al-Qur'an al-Karim, Ad-Durra, hein? Donc il y a énormément de défis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé à l'humanité et lancera jusqu'au jugement dernier, et que l'humanité ne va pas, c'est une mer inépuisable jusqu'au jugement dernier. Ils vont sortir à chaque fois qu'il y a un fin connaisseur, que ce soit dans n'importe quelle discipline, s'il est sincère et s'il a la connaissance et le savoir, il va apprendre le Coran al-Karim, il va essayer de sortir, il trouvera ce qu'il cherche dans le Coran al-Karim. Je vais parler de quelques particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. L'universalité de sa mission. Donc chaque prophète, comme on a dit mes chers frères et sœurs, il est envoyé à une communauté bien déterminée, à un peuple bien déterminé, à un espace bien déterminé, à une génération bien déterminée, à une époque bien déterminée. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé à tout le monde, il n'est pas envoyé seulement aux Arabes, il n'est pas envoyé seulement aux gens de la Mecque, il est envoyé à tout le monde. Rahmatan lil alamin, c'est une miséricorde à tout le monde, aux musulmans et aux non-musulmans. C'est une miséricorde à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes ne représentent que 10% de l'ensemble des musulmans. Beaucoup de gens croient, ils disent, bon, c'est l'islam, ils croient, mais il y a des musulmans en Afrique, il y a des musulmans en Indonésie, il y a des musulmans, mais c'est pas forcément, c'est une religion d'arabe, c'est une religion de tout le monde, c'est une religion qu'Allah Azza wa Jal, c'est un message qu'Allah Azza wa Jal a envoyé depuis Sayyiduna Adam jusqu'au jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramené quelque chose de nouveau. C'est le même message que Sayyiduna Adam a rapporté, que Sayyiduna Idris, Nuh, Ibrahim, Yusuf. Donc tous les prophètes, ils ont ramené un seul message, la ilaha illallah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois que l'humanité dérive de ce droit chemin, Allah Azza wa Jal leur envoie un prophète pour les remettre dans les rails. Donc dire qu'il y a des trois religions, machin, monothéisme, non, c'est faux. C'est faux. La religion, inna dina indallah l'islam, la religion, c'est l'islam. Venez qu'on discute et vous prouvez que votre religion, elle est falsifiée. Vos textes sont falsifiés. Ils n'ont pas gardé la vraie croyance qui a été révélée. Nous allons discuter fraternellement, bien sûr, avec amour, etc., etc. Nous allons vous prouver que vos ancêtres ont falsifié vos textes, qui ne sont pas c'est pas la vraie parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon amicale, bien sûr. Il est le sceau des prophètes et les messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas un prophète derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de prophète derrière le prophète. Comme il est le dernier des prophètes, Allah azza wa jal, il lui a dit, je vais me charger de la protection du livre saint. Personne ne peut le falsifier, personne ne va le toucher. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Nous allons le protéger, nous allons le préserver jusqu'au jugement dernier. Et alhamdulillah, jusqu'à présent, il n'y a aucune falsification qui a touché le Coran al-Karim. La terre tout entière, lieu de prière, de moyen de vérification. Dans les autres communautés, dans les autres religions, chez Sidna Moussa, Sidna Ibrahim, il y avait des endroits bien déterminés où nous devons prier. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal lui a donné des spécificités qu'Allah azza wa jal lui a données dans notre religion. Donc, que le musulman peut prier n'importe où, à condition que le lieu où il prie soit propre. Hein? Que le lieu soit propre. Même dans une église, tu pries. Même dans une synagogue, tu peux prier. Dans n'importe quel endroit, tu pries. Il y a une seule condition, que l'endroit soit propre. Non. Le droit de disposer du butin de guerre. Le prophète, quand ils étaient dans les batailles, etc., ce qu'ils gagnaient dans les batailles, ils distribuaient aux compagnons, etc. Donc, Dieu exalté lui accorda l'intercession suprême, Shafa'a, le jugement dernier. Toute l'humanité va se diriger vers Sidna Adam pour intervenir, parce que c'est un jugement, c'est un jour terrible, c'est un jour où des choses incroyables vont se passer, les gens ils vont avoir peur, tous ils vont se diriger vers Sidna Adam, Sidna Nuh, Sidna Idris, tous ils vont dire, non, moi, je ne vais pas intervenir pour vous, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une spécificité que Allah azza wa jal a donné à Rasulullah, il va intervenir pour toute personne qui a dit, dans sa vie, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Non. Dieu exalté lui accorda la prééminence sur tous les envoyés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à Fibayt al-Maqdis, tous les prophètes étaient derrière lui. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, tels sont les messagers, nous en avons élevé certains au-dessus d'autres. Nous avons effectivement préféré certains prophètes à d'autres. En vérité, nous t'avons envoyé que comme miséricorde aux habitants de ce monde. Vous êtes depuis toujours la meilleure communauté suscitée aux humains, etc., etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé comme, subhanallah, c'est une rahma. L'imam Shafi'i, il dit, il n'y a pas quelque chose, l'imam Shafi'i, un grand savant musulman, il dit, il n'y a pas quelque chose. J'ai vu dans ce monde-là, j'ai vu tous les biens qui existent dans ce monde-là, je n'ai pas trouvé un bien dans ce monde-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas à son origine. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'origine de tout bien. Il a voulu à toute l'humanité, il a insisté que tout le monde embrasse l'islam. Subhanallah. Il a tout fait de ses efforts ainsi que ses compagnons pour que tout le monde se convertisse à l'islam. Ça c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend à nous ce que nous devons faire, mes chers frères et sœurs, dans ce monde d'ici-bas. Nous devrons aussi faire cela. Nous devons prêcher, appeler les gens à cette religion qui n'est pas la religion qui ne nous appartient pas, c'est la religion d'Allah, elle appartient à tout le monde. Donc quand on parle, il ne faut pas dire que, c'est-à-dire, il ne faut pas parler au nom d'Allah, c'est-à-dire, il faut ramener le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que Allah azza wa jal, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et quand on ignore une chose, on dit, Allahu a'lam, je ne sais pas, je vais demander. Il ne faut pas jouer le grand savant qui connaît, il faut être modeste, humble. Il faut donner l'exemple aussi par le comportement. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, malheureusement, ils prêchent, ils parlent, ils donnent les discours, mais dans le comportement, c'est une catastrophe. Les musulmans qui ont proposé l'islam en Indonésie ou en Malaisie, ce sont des commerçants, ce sont des gens, ce n'étaient pas des grands savants, mais c'est des gens qui ont converti des millions et des millions de personnes juste avec leur comportement. Donc c'est très important d'avoir un très très bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites, ils ont dit, quand ils sont partis en Éthiopie, le roi d'Éthiopie, il a demandé quand ils sont venus. Ils ont dit, voilà, ces compagnons-là, il faut ne les rendre parce que c'est des gens, c'est déserteurs, ils sont venus. Il a dit, attendez, je vais leur demander, je vais poser une question. Est-ce que ce monsieur-là qui se dit prophète, est-ce que vous avez entendu parler de lui un jour? C'est un menteur. Ils ont dit, non, il n'a jamais menti. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne tient pas à sa parole? Non. Il a dit, comment voulez-vous que je vous donne ces gens-là? Ces gens-là, c'est des saints. C'est des saints, je ne peux pas vous les donner. Ensuite, ils lui ont dit, voilà, ils disent des méchancetés sur Marie. Ah bon, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont cité Sourate Mariam. Le sahabi a commencé à parler de Marie, subhanallah. Najashi, le roi des Éthiopiens, il a commencé à pleurer en entendant, subhanallah, il a reconnu la vérité dans les versets que récitaient les sahabas, les sahabis. Il s'était converti à l'islam avec un petit groupe de proches de lui. Et quand il est mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière de janaza, hein, même quand il était à Médine, et l'autre, le roi, il était en Éthiopie. Donc, le cours d'aujourd'hui qui concerne le miracle de Rasoul, les miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dépassent les 1000 miracles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse les 1000 miracles. D'ailleurs, je me suis rappelé d'un livre très important, les 1000 vérités scientifiques du Coran. Vérités scientifiques, vous allez trouver 1000, il y a 1000 vérités scientifiques prouvées aujourd'hui dans le Coran al-Karim. Donc, le Coran al-Karim, on ne se lasse pas de le lire. On trouvera même, regardez, même en le lisant en français, moi vous allez le lire en malgache ou en anglais, il porte toujours en lui une force et une connotation, que ce soit dans son information, que ce soit dans la force du verbe, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la rationalité, que ce soit dans le message. C'est un défi qui est lancé à toute l'humanité. Je me limite là, s'il y a des questions, Inch'Allah, concernant le cours d'aujourd'hui. Ah, il a énormément écrit de roche, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le... Zandani, il a écrit beaucoup d'ouvrages, c'est un yaménite, Abdelmajid Zandani, donc le frère me dit qu'il y a quelque chose qui a été traduit en français, hein? Ceci est la vérité, c'est un CD, DVD, en DVD, en livre, ça existe en livre aussi, en livre, Zandani, je ne sais pas où est le crayon qui était là, Zandani, comme ça se prononce, Zandani, oui. Il fait énormément de recherches, effectivement. Parce que lui c'est pas, non seulement c'est un savant dans la charia, lui, sa formation, c'est un scientifique. Voilà, il était directeur, je sais qu'il était directeur en Arabie Saoudite d'un très grand institut de recherche, etc., de médecine. Et c'est un grand spécialiste dans la chimie, en anatomie. Et donc, il n'y a pas que Cheikh Zandani. Donc, il y a énormément de spécialistes qui parlent donc des preuves scientifiques dans le Coran al-Karim. Il n'y a plus de questions. C'est bon. Voilà. Donc, ça y est. Donc voilà. Aujourd'hui, le cours sur le miracle est terminé. On parlera, Inch'Allah, la prochaine fois. J'ai terminé le cours. Ça y est. Le cours est terminé. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallam ala mursalin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.